Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard bien sûr, qui m'aide chaque jour à préparer ses émissions. C'est Alexandre Cagzan qui était aux manettes techniques de l'émission. Et à la une, un nom, Pierre Bodin, un surnom beaucoup plus connu, Pierrot le Fou. On reparle du parcours particulièrement hors norme de cet homme qui, je le disais tout à l'heure, a passé presque l'essentiel de sa vie en prison ou en hôpital psychiatrique depuis l'âge de 20 ans. Il va en avoir 67 à la fin au courant du mois de décembre prochain. Pierre Bodin a été condamné d'abord en avril 2007, puis en appel en septembre 2009, puis la Cour de cassation a confirmé cette condamnation donc définitive à la perpétuité incompressible. On va revenir dans un instant sur cette notion de droit qui touche très peu de prisonniers en France. Enfin, je pense que 4 personnes au total ont été condamnées à cette peine-là, dont Michel Fourniret. Et Pierre Bodin, en tout cas, a été le premier. Il contestait donc la légitimité de cette peine devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et jeudi dernier, cette Cour a donc rejeté sa demande. On imagine bien sûr une décision qui a provoqué un immense soulagement chez les familles de ces victimes, comme l'a exprimé sur RTL Françoise Scharf, la mère de Julie, l'une des jeunes victimes violées et tuées par Pierre Bodin en 2004. Françoise Scharf est au micro de Georges Brognier.
C'est un immense soulagement, je dirais même. À la limite, je ne sais même pas qu'est-ce qui me soulage plus, si c'est le fait de ne pas avoir donné raison à M. Bodin, ou si c'est le fait de ne pas avoir une nouvelle instruction en perspective. Mais en tout cas, c'est sûr qu'une autre réponse de la Cour européenne nous aurait vraiment bouleversés et surtout, j'ai peur un peu du mot, mais écœurés, vraiment écœurés si ça avait été autrement. Ça, on n'aurait absolument pas supporté. Surtout si l'on met de l'autre côté de la balance qu'ont vécu les 3 dernières victimes de Bodin. Parce que là, parler d'humanité, M. Bodin est très mal placé pour en parler par rapport à ce qu'il a fait subir à Jeanne-Marie, 10 ans quand même. 10 ans, Jeanne-Marie, Edwige et Julie. Donc les derniers instants de ces 3 personnes, qu'on parle d'humanité, je ne vois pas, je ne comprends pas.
Voilà, je voulais qu'on entende ce témoignage avant de donner la parole à Maître Renaud Betcher. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Alors, on va mettre les choses au point tout de suite. Vous n'êtes pas là pour plaider le dossier de Pierre Bodin.
C'est fait.
C'est fait, hein, vous l'avez fait en septembre 2009, c'est-à-dire au cours du procès en appel qui a confirmé la première condamnation à la perpétuité incompressible. Et on vous a demandé de venir ici, et merci d'avoir accepté notre invitation, pour nous éclairer sur la personnalité. Quand on parle de personnalité hors norme, vous êtes d'accord?
Ah bah, les faits pour lesquels dorénavant il est convaincu de les avoir commis et pour lesquels il a été jugé parlent d'eux-mêmes. Mmh. Ce sont des actes démentiels. Et quand je pense à actes démentiels, je pense aussi à démons.
Bien sûr.
Maintenant qu'il est jugé, définitivement jugé, mmh, mais il a encore un recours possible devant la grande cour, hein, la cour d'appel en quelque sorte de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a 3 mois quand même pour se pourvoir. Mmh. C'est sur le problème de la peine, c'est plus sur le problème des faits. On ne s'y attarde plus.
D'accord.
Donc, le problème qui se pose, c'est de définir Pierre Bodin et savoir ce qu'on doit faire de Pierre Bodin. Nous sommes à la limite du psychiatrique et nous sommes à la limite du droit pénal. Oui. Il n'a pas été déclaré comme dément, mais les actes parlent d'eux-mêmes.
Oui.
Alors, dans tous les cas de figure, j'oserais dire que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un premier temps, a statué, je dirais, contre sa propre jurisprudence, puisqu'elle a dit, dans un premier temps, qu'il n'y a pas d'impossibilité à voir aménager.
Il y a un recours possible, alors, parce que, définissons ce que c'est que la peine de perpétuité incompressible.
C'est-à-dire qu'avant une trentaine d'années, on ne peut pas être être accessible voilà. au moindre aménagement de peine, réduction de peine, voilà. placement sous bracelet électronique.
Et quand cette demande éventuelle est faite au bout de 30 ans...
Elle n'est pas automatique. Hein.
Elle n'est pas automatique. Il y a un collège de magistrats, d'avocats, d'experts. De psychiatres, d'experts qui se réunissent pour évaluer la dangerosité. Évidemment, tout le monde pense à une récidive possible, même si pour Pierre Bodin, il s'agirait de quelqu'un qui aurait 87 ans. Hein, bon. Oui. Alors, mais on n'est pas là pour commenter. Cela sont des faits. Lorsque vous avez défendu Pierre Bodin au cours de ce procès en appel, vous saviez donc qui il était, ce qu'il avait fait. Mm-hmm. Est-ce que comment les avocats à cette époque, puisqu'il a été le premier, ont accueilli ce verdict, cette condamnation à la perpétuité réelle? C'est quelque chose qui était déjà dans les possibles, mais qu'aucune cour de justice n'avait rendu comme verdict.
Bien entendu, c'était dans les champs du possible, puisque c'était prévu par la loi. Sauf que je dirais que par la suite, on s'est posé la question de l'efficacité d'une peine ou de peines aussi longues dans d'autres pays. Et la Cour européenne des droits de l'homme a censuré dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on admet qu'une longue peine n'a pas de sens. Mmh. Mais pour Pierre Bodin, c'est là, encore une fois, qu'on est à la limite de la psychiatrie et du droit pénal. Là, il faut, c'est certain, entourer, encadrer Pierre Bodin. On peut pas le remettre en liberté. C'est pas dans le domaine du possible.
C'est
quelle que soit sa forme d'incarcération, oui. que ce soit une rétention au titre d'un acte psychiatrique ou d'une décision, pardon, de psychiatre, oui. plus personne ne va oser remettre Pierre Bodin en
bien
liberté,
sûr,
quel que
sûr.
Soit son régime d'incarcération.
Alors d'ailleurs, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, on entendra dans l'émission deux témoignages qui ont été recueillis pour l'heure du crime par Laure Broulard ces jours derniers. Le premier témoignage, c'est celui d'un journaliste. Simplement, on a eu la curiosité de demander à Jacques Fortier, qui est journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace et qui a suivi à la fois, qui a suivi donc tous les événements, les triples crimes de l'été 2004 et qui ensuite a assisté pour son journal au procès. On lui a demandé ce qu'il retenait à la fois de ce personnage et de ce dossier. Puis on a posé la même question au docteur Pierre Lamotte. Le docteur Pierre Lamotte est expert psychiatre auprès des tribunaux. Il est l'un de ceux qui ont expertisé à l'époque Pierre Bodin et il est actuellement chef du service médico-psychiatrique régional des prisons de Lyon. Et on entendra donc ces deux interventions un peu plus tard dans l'émission. Mais là, tout de suite après une première pause, et en vous rappelant que, bien sûr, vous pouvez nous contacter au 3210 ou sur rtl.fr, si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages à propos de Pierre Bodin et de cette affaire. Dans un instant, nous allons revenir à la fois sur le parcours criminel de cet homme et aussi sur les relations que peut avoir un avocat avec une personne qui tel que lui, en fait. Hein, et on peut difficilement le comparer à d'autres.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous revenons sur l'affaire Pierre Bodin, il faut peut-être dire le cas Pierre Bodin, donc cet homme qui autour de qui a toujours plané la même question hein, depuis le début, Maître Betcher, c'est-à-dire que est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est atteint d'une maladie mentale qui pourrait expliquer une partie de ce qu'il fait, c'est-à-dire il a fait quand même pendant des années c'est des vols à l'étalage, des petits braquages, bon. Il n'a tué qu'à un certain moment, mais à ce moment-là, tout le monde se dit, mais comment? Personne n'a vu la dangerosité de cet homme. Au cours de son parcours criminel, et après, je crois, une série de braquages, mais importants, une vingtaine de hold-up, un conseil de psychiatre avait considéré qu'il n'était pas responsable de ses actes et que, donc, il n'était pas accessible à une sanction pénale. Ça a été une première... Enfin, c'est... Non, c'est pas ça, je
non,
vois faire la moue.
Non, à tout le moins, on a estimé oui. que, dans le cadre de l'exécution de sa peine...
Oui.
Il relevait oui. plutôt du psychiatrique voilà. que du carcéral. Voilà.
D'accord. Il avait été condamné, mais on a décidé donc qu'il allait dans un asile psychiatrique. Bon, là, il a apparemment, j'ai fait les calculs, trompé une centaine de psychiatres tout au long de sa vie. C'est une centaine de psychiatres et de psychologues qui ont dit après, mais c'est un simulateur extraordinaire parce qu'il nous a tellement bien menti qu'on était sûr qu'il était vraiment fou. Il va passer 3 ans dans cet hôpital psychiatrique. Il va simuler la paralysie. Il va, pardonnez-moi la cruauté, enfin la crudité du terme, il faut le dire, parce que ça veut dire que il est allé très loin dans la simulation. Il mange ses excréments. C'est une sorte de légume. Il ne parle plus à personne. On le balade dans l'hôpital sur un fauteuil roulant. Et au bout de 3 ans, les seules 10 minutes où une infirmière qui l'amène à la cantine abandonne son fauteuil dans un couloir quelques secondes parce que elle a oublié des affaires dans la salle des infirmières. Là, il y a une fenêtre ouverte. Il y a pas de barreau. Il sort. Et le lendemain, il tue.
Après, il va non. Le lendemain, il
tue. Il blesse très grièvement un policier.
Un policier qui l'a apporté à portée de viseur.
Voilà. Bon, il viole une femme.
Viole quelqu'un. Oui.
Bon, voilà.
Et l'Alsace est mise à feu et à sang par le parcours à nouveau criminel de Pierre Bonnin.
Ouais.
Mais vous voyez, j'ai posé la question un jour à un psychiatre de savoir, mais on dit simulateur, mais on ne peut surjouer que ce qu'on est réellement. On ne peut, le psychiatre m'a dit ça, et à juste titre, on ne peut pas manger ses propres excréments si on n'est pas complètement ravagé. Donc, il signait par là même le fait qu'il est complètement fou. Et il relève complètement et entièrement de la psychiatrie.
Mmh.
Et quand bien même, encore une fois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, quel que soit son régime d'incarcération, il faut le maintenir en dehors de la société.
Alors, après ce que vous venez de dire, on va entendre ce témoignage auquel je faisais allusion tout à l'heure de l'expert donc psychiatre Pierre Lamotte qui a exprimé au micro de Laure Broulard ce qu'il pensait de la difficulté qu'il y avait à décrire le profil psychologique de Pierrot le Fou.
Mon souvenir était celui d'un personnage qui était évidemment très différent de ce que présentaient les journaux. Mais ça fait aussi partie de son trouble qui a plusieurs facettes. Lui, il se présentait comme un homme un peu mièvre, ayant été victime en quelque sorte d'une éducation dure. Donc ça démarre un petit peu au garde-à-vous devant la réalité, si on peut dire. Il a toujours été un peu obnubilé par la nécessité de survivre dès ses premiers vols alimentaires et aussi un petit peu habité par l'idée qu'il était mal jugé et qu'il y avait une espèce d'injustice dans la façon dont on le voyait, où il prenait toujours plus que ce qui était prévu.
Mais comment est-il passé alors au meurtre et au viol ? Parce que ça allait quand même beaucoup plus loin que les simples vols alimentaires.
La dérive qui le fait passer à des meurtres et à des attaques sur des femmes tient aussi à une espèce de manque de retenue. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite, aussi bien pour travailler 14 heures par jour que pour concevoir, en fin de compte, ce qui se fait et ce qui se fait pas. Toute la question était de savoir quelle était la part. Il revenait d'une espèce de théâtralisation, en quelque sorte, une façon spectaculaire de montrer sa souffrance, ou ce qui revenait, au contraire, d'une vraie folie qui aurait pu l'exonérer de sa responsabilité pénale. En fait, on a aussi bien dans les documents cliniques de ses séjours à l'hôpital que dans le contact de l'expertise, on n'a jamais la certitude qu'il est psychotique et qu'il perd contact avec la réalité. Il est toujours dans la réalité, donc il reste responsable de ses actes.
On le voit un peu comme une sorte d'intelligence machiavélique, parce qu'apparemment il y a eu une réelle métamorphose entre le moment où il était en hôpital psychiatrique, où il ne marchait plus, il ne parlait plus, et le moment où il a pu s'évader de l'hôpital. Enfin, comment une telle métamorphose a pu être possible ?
Ce qui a été très porté à son dédit, justement, contre lui, c'était le fait qu'à un certain moment, les tableaux à l'hôpital étaient extrêmement spectaculaires, avec paralysie, etc. Donc on disait, soit c'est un vrai hystérique, soit c'est un simulateur habile qui manipule tout le monde. Alors, je rappellerai le mot de grand neurologue Babinski qui disait « On ne simule pas l'hystérie, on simule parce qu'on est hystérique ». Et je crois que ça cadre assez bien avec la manière dont Pierre Bonnin fuyait, en quelque sorte, des symptômes qui lui évitaient d'avoir à tout affronter. Alors, il y a quand même des éléments qui sont authentiquement pervers, de la manière de se défendre. Mais je dirais que c'est de la malignité un petit peu simplette, parce que son QI n'est pas si élevé que ça. Il est à peine à la moyenne, un peu en dessous. Donc on peut pas dire non plus que ce soit le génie du crime.
Mais il a quand même réussi à flouer énormément d'experts.
Il a réussi à mystifier pas mal de monde, parce que nous, quand nous écoutons un symptôme, nous faisons un peu le crédit à la personne de ce qu'elle nous dit. Et donc, nous postulons que peut-être il y a quelque chose à voir et qu'il ne s'agit pas seulement d'une simulation ou d'un mensonge. Donc, il a pu, à certains moments, mystifier des gens. Mais je crois quand même que, globalement, tout le monde est arrivé à peu près à la même conclusion. Hein.
Alors, nous allons faire une pause dans cette émission. On retrouve Maître Renaud Betscher dans quelques instants, après cette pause, avec cette question. Autant les psychiatres ont été déroutés par la personnalité de Pierre Bodin, je vais lui demander comment, en tant qu'avocat, on défend les intérêts de quelqu'un comme ça, devant une cour d'assises.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes en compagnie de Maître Renaud Betscher. Donc, on le rappelait tout à l'heure, Renaud Betscher était le défenseur de Pierre Bodin au cours du procès en appel de cette condamnation à la réclusion incompressible, peine qui a été confirmée. On va revenir sur tout cela dans un instant avec vous. Mais d'abord, peut-être simplement pour nous remettre dans l'ambiance de l'époque, parce qu'après, je vais vous demander comment on fait en tant qu'avocat pour défendre un tel personnage. On est dans l'été 2004, l'Alsace est effectivement secouée par d'abord des disparitions qui se révèlent être des crimes absolument atroces, avec des mutilations, des actes de barbarie. Jeanne-Marie, Edwige, Julie, dont une enfant de 10 ans, qui sont retrouvées en l'espace de quelques semaines dans les alentours de Rinan, je crois.
Hein, Rinan.
Et le 30 juin 2004, Bodin, est mis en examen dans cette enquête. On l'apprend donc publiquement. Et Marine Jobert, la correspondante d'RTL en Alsace à l'époque, faisait le point sur notre antenne sur les débuts de cette affaire tragique.
L'homme que le procureur de la République de Saverne vient de mettre en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort a un lourd passé judiciaire. Il a comparu 3 fois devant une cour d'assises pour des hold-up, des tentatives de meurtre et des viols. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il est sorti il y a 4 mois en libération conditionnelle sous surveillance. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui après que des habitants de Schirmeck ont reconnu sa forte fiesta blanche autour de l'heure où Julie a disparu. C'est un coin du Bas-Rhin qu'il connaît bien puisque sa fille de 16 ans réside avec sa mère près de Schirmeck. Mais surtout, ce qui l'a trahi, ce sont des traces de son ADN relevées sur le vélo de Julie, ainsi que des bouts d'un de ses phares. Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou, avait déjà été placé en garde à vue ce week-end, mais les gendarmes avaient dû le relâcher à contre-cœur, faute de preuves. Aujourd'hui, nous avons des éléments sérieux sur le procureur de Saverne, qui se dit très pessimiste sur le sort de Julie.
Alors Marine, les enquêteurs examinent aussi toutes les pistes ce soir, car Pierre Bodin a été interpellé dans le secteur où 2 autres corps ont été découverts ces derniers jours.
Oui, il s'agit d'abord d'Edwige Vallée, dont le corps dénudé est retrouvé le 22 juin à Indisheim. Son cadavre lacéré de coups de couteau et portant des marques d'étranglement gisait dans un cours d'eau. Une semaine après, c'est Jeanne-Marie, 11 ans, dont on retrouve le corps à Valf. Les deux femmes présentent les mêmes mutilations au niveau du bas-ventre. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que le corps de Jeanne-Marie a été retrouvé à 2 km de l'endroit où vivait Pierre Bodin, qui connaissait la famille des 6 mis en examen dans la même affaire. A-t-il participé directement ou indirectement à ces morts? Les enquêteurs le reconnaissent, ils étudient sérieusement cette hypothèse. Mais pour l'heure, aucun élément objectif ne leur permet de faire un lien entre les 3 affaires.
Marine Jobert, donc, sur RTL, le 1er juillet 2004, dans le journal d'Hervé Bérou, dont on a entendu la question à l'instant. Pour aller tout de suite la suite de ce que disait Marine Jobert à cette époque-là, bien sûr, les 2 autres meurtres seront attribués à Pierre Bodin, et quand je dis seront attribués, il y a une série de preuves absolument accablantes, matérielles, du sang, de l'ADN, des témoignages, qui font que cet homme, lorsqu'il arrive devant une cour d'assises, personne ne se pose la question de savoir s'il y a une erreur sur la personne, hein, maître. Et lui, il a décidé de dire, mais non, tout ça, il y a un complot de la police, je suis innocent. Il nie contre vents et marées. Comment on défend un homme comme celui-là ?
Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, un procès d'assises en matière criminelle, c'est examiner la personnalité de l'individu, de l'accusé qui va être jugé. Sur ce point, avec les réserves qu'on a émises tout à l'heure concernant l'aspect psychiatrique délirant, fou, pas fou de Pierre Bodin, la question restait malgré tout et quand même en suspens, puisque vous avez rappelé qu'il a été examiné par une kyrielle de psychiatres, donc oui. Nous étions malgré tout au cœur débat, de savoir... Oui. La sanité d'esprit de Pierre Bodin. Mmh. Passer cette épreuve d'examen de la personnalité de Pierre Bodin, dont vous avez rappelé aussi tout à l'heure, à juste titre, qu'il avait passé une grande partie de son existence en détention, il était assez clair que le profil de Pierre Bodin, c'était pas celui d'un enfant de cœur. Mmh. Passer donc, encore une fois, tout cet aspect de personnalité, il s'agit de savoir si les preuves qui sont rapportées par l'accusation, respectivement les gendarmes, sont suffisantes pour venir
étayer l'accusation.
L'accusation et donc la condamnation et obtenir la condamnation de cet homme. Et Pierre Bodin, contre vent et marée, en effet, a soutenu qu'il était parfaitement innocent. Alors, ça serait un peu simpliste de rapporter ici quand même un mois et demi d'audience oui, consacrée uniquement à Pierre Bodin et au fait qu'on
c'est quand même pas une affaire comme les autres pour vous, quoi. Elle vous a marqué d'une certaine manière.
Bah écoutez, j'ai quand même bien entendu.
Vous avez une grande expérience, enfin celle-là quand même maximum.
Oui, alors là, vraiment pour le coup. Mais quand il m'a demandé de l'assister, je vais vous avouer que j'ai quand même hésité, mais c'est un peu comme le cheval qui refuse l'obstacle. Je me suis dit si je ne vais pas dans cette affaire jusqu'au bout, j'aurais refusé un jour l'obstacle. Oui. Donc je suis rentré dans cette procédure et j'ai vu que tout n'était pas aussi évident et aussi clair que ça en avait l'air. Mmh. Et, Marine Jobert, à l'instant, a d'ailleurs rappelé qu'il avait dans un premier temps été placé en garde à vue et relâché, faute de preuves, puisqu'il avait un alibi sur l'un des assassinats qu'on lui reproche. Mmh. Donc, tout n'était pas aussi clair, la téléphonie n'était...
De toute façon, c'est le travail de l'avocat, de toute façon, de faire ce que vous dites.
Si vous voulez, j'ai pas d'état d'âme. Le procès est ainsi fait. Il y a des parties civiles, qui portent le fer pas de l'accusation, mais des sentiments éprouvés par ces victimes. Elles ont ces parties civiles des avocats. Vous avez un avocat général qui, lui, de son côté, va porter le fer de l'accusation. Mmh. Vous avez un avocat qui défend, et vous avez des juges qui vont juger. Donc, ma position, elle n'est pas là de savoir quels sont mes états d'âme. Je n'en ai pas. Mmh. Après coup, je peux me rendre compte, évidemment, d'un certain nombre de choses.
C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, parce que maintenant, après coup, avec le temps qui a passé...
Je suis citoyen lucide. Mais dans mon rôle, à ce moment-là, dans cette mise en scène, entre guillemets, qui permet de rendre la justice, ma place... Et du côté de Pierre Bodin.
Alors, on fait une pause rapide, et puis on se retrouve tout de suite après, et on va continuer à parler de l'attitude de Bodin, donc au cours de ces procès, et puis aussi peut-être parce que d'une manière plus générale, vous êtes un avocat pénaliste avec une solide expérience, on va dire, pas dire très ancienne, j'aimerais bien avoir votre sentiment aussi sur le fait de répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de... est-ce que ça suffit d'enfermer quelqu'un entre quatre murs, ou est-ce qu'il faut trouver quelque chose, mais quoi? Sachant que, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, personne ne prendra le risque de le remettre en liberté.
L'heure du crime sur RTL.
Alors, on va revenir, Maître Betcher, sur cet été meurtrier de Pierre Bodin. Il y a eu ces questions dont on parle encore, donc simulateur ou atteint d'une maladie mentale, mais il y a eu aussi une très grave polémique qui a mis en cause la justice pour avoir, disait-on à l'époque, trop facilement libéré cet homme-là, puisque il faut rappeler que en été 2004, Pierre Bodin, s'il était allé au bout de la peine qu'il purgeait, c'est-à-dire ça, c'est tout ce que s'est passé. Il a passé 14 ans de prison sur une condamnation à 20 ans qu'il a obtenu. C'est l'épisode après son évasion de l'hôpital psychiatrique. Il a été jugé. Cette fois-ci, il était reconnu, évidemment, responsable de ses actes, condamné à 20 ans. Il en fait 14 et il devait sortir donc avec le jeu normal des remises de peine en août. Or, un juge d'application des peines décide de lui faire bénéficier d'une liberté conditionnelle en mars. Et moi, j'aimerais qu'on rectifie les choses avec vous parce que tout le monde est tombé à bras raccourcis sur ce magistrat, alors que vraisemblablement, c'est un homme qui avait étudié le dossier, qui avait pris la meilleure décision possible.
Absolument, vous avez raison de dire la meilleure décision possible. Il n'y en avait pas d'autre, c'est le président Hahn, et ça a été scandaleux ce qui a été réservé, le sort qu'on a réservé à cet homme, puisqu'on est tombé dessus sur lui. Mais
donc voilà, la justice est n'importe quoi, et ils remettent en liberté des fous.
Mais de toute façon, il allait sortir.
Expliquez-nous.
Il allait sortir, comme on dit vulgairement, de façon sèche, c'est-à-dire.
Il aurait payé entre guillemets sa dette à la société
et il était hors de contrôle.
Voilà.
La seule chance qui pouvait exister pour avoir un tantinet ou un semblant de contrôle sur Pierre Bodin,
c'est-à-dire de lui faire un sas entre la prison et la vie quotidienne, quoi, en gros.
Le retenir encore par quelques ficelles au monde judiciaire, c'était le placer en libération conditionnelle sur un reliquat de peine de 3 mois.
Voilà. Et pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'il avait comme obligation à ce moment-là
de rendre compte qu'il travaille ou
d'aller pointer quelque part,
et de rendre compte
et d'avoir des entretiens psychiatriques ou avec un psychologue.
Des entretiens plus ou moins réguliers avec le service de probation et d'un.
Ce qu'il n'a pas fait, évidemment, puisqu'il a échappé à tout le monde.
Et il était très difficile dans ces conditions de révoquer une peine de 3 mois. De toute façon, il était dans la nature, il se promenait, il était à droite et à gauche, jusqu'au crime qu'il a commis.
Mais vous confirmez, vous, votre vision d'habitué du monde de la justice, cette décision était la meilleure que pouvait prendre ce magistrat.
Il n'y en avait pas d'autre. Ouais. Ou alors le laisser courir jusqu'à ces 3 mois qui lui restaient à faire.
Alors évidemment, ce qui est insupportable pour les familles de victimes, on le comprend, puisque il tue à un moment où il aurait dû être en prison. C'est de là qu'est né
la polémique.
Alors, à propos de ce que vous venez de dire, on a évoqué cette polémique évidemment sur RTL à tel point d'ailleurs que le procureur général auprès de la cour d'appel de Colmar, Bernard Legras, a organisé une conférence de presse pour répondre à cette polémique et pour RTL, Dimitri Ramelotte était présent. Écoutez.
Le suspect numéro 1 dans la disparition de Julie est entré en prison en 1990. Entre 94 et 96, Pierre Bodin écope de 15, 19 et 20 ans de réclusion pour des faits de vol et viol avec arme ainsi qu'une évasion. La loi de l'époque lui permet de ne purger que la plus longue des 3 peines, soit 20 ans, à compter de son entrée en prison en 1990. La période de sûreté étant des 2/3, Pierre Bodin était donc libérable en octobre 2004, si l'on inclut les remises de peine automatiques. Mais un collège de magistrats a choisi d'anticiper de quelques mois la sortie de l'individu, ce qui lui permettait de bénéficier d'une mesure d'accompagnement. Bernard Legras, procureur général près la cour d'appel de Colmar.
Il était confié à la surveillance d'un agent de probation appartenant au service d'application des peines du tribunal de grande instance de Saverne. L'intéressé ne pouvait pas se voir obligé à suivre un traitement quelconque. Mais dans cette affaire, les magistrats ont appliqué les lois en vigueur et manifestement la législation était inadaptée à la personnalité de cet individu.
Selon le magistrat, une réflexion de fond doit être menée pour ne plus avoir affaire à de tels cas.
Alors cette réflexion de fond a-t-elle eu lieu? Quelles en ont été les conséquences? On va parler de ça ensemble dans un instant avec maître Renaud Betcher qui est mon invité.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de cette émission consacrée à la fois à la personnalité de Pierre Bodin et à son parcours et à toutes les questions qui se posent et dont beaucoup n'ont pas encore été résolues. On va en parler de façon un peu plus générale dans un instant avec maître Renaud Betcher, dont je rappelle qu'il a été le défenseur de Pierre Bodin au cours du procès en appel qui a confirmé sa condamnation à la perpétuité réelle, comme on dit. Mais d'abord, un un autre témoignage pour continuer ce puzzle dont on essaie de rassembler les pièces aujourd'hui, l'impact de cette affaire en Alsace et l'impact, j'allais dire, aussi sur les journalistes. On va entendre Jacques Fortier dans un instant. Jacques Fortier est journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Il a suivi pour son journal à la fois le procès, notamment le premier procès de 2007.
Et en appel aussi.
Mais il était là en appel. Et avant cela, il a couvert pour son journal, évidemment, toutes les interrogations qu'on se posait sur ces disparitions et ces crimes mystérieux. Écoutez ce qu'il a dit à Laure Broulard de ce qu'il avait retenu à la fois de cette affaire et du personnage de Pierre Bodin.
Chaque fois que le nom de Pierre Bodin revient dans le journal, nous avons des réactions. J'ai écrit un article pour les 10 ans de ces trois crimes, donc au début de cet été. J'ai reçu des appels. Pourquoi reparlez-vous de lui? Là où il est, c'est bien. Il faut entendre ça. Quand la toute récente affaire, donc la procédure européenne contre la perpétuité dite réelle française a été lancée par Pierre Bodin, et quand elle a été médiatisée, là aussi, nous avons eu des appels, des courriels, des appels téléphoniques au journal. Pourquoi refaites-vous de la publicité à cet homme? L'opinion publique est, pour une part en tout cas, à fleur de peau là-dessus. Il faut dire que l'horreur des trois crimes de 2004, elle est encore dans les mémoires. Et puis, ça se passe dans des lieux qu'on connaît ici. Les villages, les villes concernées sont à quelques kilomètres de Strasbourg. Il y a un rapport de proximité avec la vie de criminel de Pierre Bodin et puis ses victimes. Alors, ça parle beaucoup aux gens.
Et vous qui l'avez vu, qui l'avez eu en face de vous, qu'est-ce que vous en gardez? Comment feriez-vous le portrait de cet homme?
Je l'ai eu 3 mois, effectivement, en face de moi, et au point que, comme j'étais toujours à la même place au banc de la presse, lui toujours à la même place dans le box, il me saluait le matin quand j'arrivais. Mais cet homme-là est intelligent, beaucoup plus qu'il ne l'a laissé penser. Il est particulièrement complexe sur le plan psychologique. Je pense que jusqu'à la fin, il croira en sa propre innocence, il s'en auto-persuadera et tentera d'en persuader d'autres. Une part de lui-même croit qu'il est sincère en disant qu'il est innocent, alors que la science, et de façon irréfragable, démontre qu'il a commis les crimes pour lesquels il a été condamné. Et il connaît, parce qu'il apprend vite, tous les rouages du code pénal. Tant qu'il existera une procédure possible pour essayer de sortir de la vie de détenu au long cours qu'il mène actuellement, il le fera. Il a passé ses 3 mois de procès avec un petit calendrier en main, petit calendrier sur lequel il avait coché toutes ses journées de fin juin, début juillet 2004, les journées où on l'accusait d'avoir tué ces trois personnes. Et il a passé son temps avec beaucoup d'ingéniosité et d'habileté à essayer de démontrer qu'il pouvait pas être là où on disait qu'il était, qu'il pouvait pas avoir fait ce qu'on disait qu'il avait fait, etc. Et chaque fois qu'en fait son argument s'effondrait, comme du sable qui lui coulait entre les doigts, il s'en indignait. Il s'en indignait parce qu'il avait comme l'impression qu'il y avait quand même une vérité sur ce petit calendrier, qui était la vérité de son innocence. C'est un homme particulièrement complexe.
Maître Betcher, ça vous a causé des difficultés d'être le défenseur de cet homme?
Non, pas du tout. Non.
Personne ne vous l'a reproché.
Parce qu'on connaît mon intégrité intellectuelle et morale, et j'étais à ma place de défenseur. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y en a qui jugent, il y en a qui accusent. Non, j'ai jamais eu le moindre problème ou souci.
Alors, je voudrais revenir sur une question. C'est par celle par laquelle d'ailleurs on a commencé l'émission. J'aimerais que vous essayiez de nous en dire plus, de nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'une cour, qu'un jury va basculer dans cette peine de la perpétuité réelle, qui est très rarement donc prononcée. Certes, le ministère public avait demandé une peine, j'ai oublié l'expression de l'avocat général, mais d'élimination, quoi. Je crois que c'est ça le terme qu'il avait employé. Qu'est-ce qui fait alors, tout au long de ce procès, vous dites, on peut encore revenir sur une autre notion?
Mais non, mais il y en a qu'une seule, c'est mettre hors d'état de nuire.
Mais malheureusement, il y a beaucoup d'affaires, j'allais dire, comparables à ce qui s'est passé là autour de Pierre Bodin. Pourquoi?
Vous trouvez vraiment qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont de cette nature? Il y a des affaires.
C'est vrai qu'il y en a eu une autre pour laquelle d'ailleurs, j'ai oublié le nom de la personne, mais il y a eu condamnation à perpétuité réelle.
Fournirait,
bien sûr. Et puis un autre, Beaulieu, je crois. Oui, alors donc...
Mais vous savez, en matière criminelle et dans ce type d'affaires, il n'y a pas forcément et au bout la récidive. La récidive, c'est quand même l'exception. Et on va pas faire de l'exception le principe. Mais là, il faut bien reconnaître que compte tenu de l'atrocité des faits qui étaient reprochés à Pierre Bodin, la Cour européenne des droits de l'homme elle-même s'est déjugée parce qu'elle a dit que c'était une peine qui était susceptible d'être aménagée, alors qu'on on sait très bien qu'elle ne le sera jamais. Et de surcroît, elle se dément elle-même en disant que le défaut de motivation de la cour d'assises du Haut-Rhin n'est pas opposable en la matière. Elle se déjuge elle-même puisqu'elle a jugé qu'il fallait dorénavant motiver les décisions de cour d'assises en disant que purement et simplement il avait été répondu à suffisamment de questions pour que ça vaille motivation.
Les questions qui ont été posées aux jurés, ils ont été donnés dans l'arrêt.
Oui, 25 questions. Répondre oui ou répondre non ne crée pas une motivation. N'est pas de la motivation. Donc elle s'est déjugée et c'est en pure opportunité qu'elle l'a fait pour ne pas avoir effectivement à faire revivre à ses familles le drame d'un troisième procès.
Oui, d'accord. Vous pensez, comme le disait Fortier tout à l'heure, qu'il utilisera tous les moyens juridiques ou judiciaires possibles?
Il n'a plus rien d'autre à faire. Sa vie s'est arrêtée en prison. Donc si, effectivement, il pouvait trouver le moyen de pouvoir s'en sortir, mais il n'en trouvera plus, c'est fini.
On nous a demandé aussi, au cours de l'émission, par le Standard, mais qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des soins pour un... Est-ce qu'il est suivi, cet homme-là, en prison ou pas?
Écoutez, vous le savez? Non, je n'ai plus de nouvelles de celui-ci. Il est dorénavant à Moulins-Yzeure. Il suit son régime carcéral de façon ordinaire. Il a toujours pris des calmants, des anxiolytiques, des produits pour dormir. C'est un peu le lot quotidien de tous les détenus. Ouais. Je crois qu'il doit avoir ce régime-là d'anxiolytiques et c'est tout.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, maître, d'être venu nous parler de cette expérience qui est évidemment aussi hors du commun que le personnage dont on a parlé. L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques instants.